Et on va passer ce mois avec Gail Ouellet, qui est... Êtes-vous directrice générale, Gail?
Oui, je suis présidente directrice générale du Regroupement québécois des maladies orphelines.
Le RQMO.
Oui.
Oui, on risque d'utiliser l'acronyme pas mal souvent. On va causer également à Arielle Pacaud, qui, elle, est une des personnes que vous nous présentez ce mois-ci. On vous a demandé de nous... initiés à quelques-unes de ces maladies orphelines que l'on connaît pas. Évidemment, sur 6000, on va en prendre 4 ou 5 selon le temps, mais rien ne nous empêche ensuite d'y revenir au cours de la saison. Ariel, qui est déjà avec nous, nous allons également, cette fois, ça n'avait pas fonctionné un petit peu plus tôt dans la saison, mais regardez comment Emma Québec nous propose en 2014-2015 un plan d'action pour recevoir le don de sang d'une personne à limitation fonctionnelle. D'ailleurs, semble-t-il, l'Office n'aime pas ça, limitation fonctionnelle. On essaie d'avoir une entrevue la semaine prochaine pour parler du glossaire entourant le handicap. Alors, on verra qu'est-ce qu'il y a de mal avec la limitation fonctionnelle. Et il y avait la semaine dernière, pour une sixième occasion, une journée de discussion où les municipalités accessibles se réunissaient à Saint-Eustache. Et on va causer de cela avec un animateur communautaire de la ville de Saint-Eustache et... un participant de l'organisme Kéroul. Kéroul qui était sur place, tout comme Altergo. On a fait des appels et Michel Trudel de Kéroul, il nous attend déjà, lui qui est déjà dans le corridor. Mais comme on démarre le mois, on aime ça connaître les gens avec qui on va passer ce mois-là. Et pour y avoir parlé brièvement, c'est la semaine dernière qu'on a causé ou il y a 2 semaines, Gail?
Il y a 2 semaines.
Il y a 2 semaines déjà, mais c'est à peu près tout ce que je connais de vous. Et c'est étonnant parce que, souvent dans ces émissions-ci, le milieu du handicap étant quand même pas si grand que ça, souvent ce sont des gens qui reviennent et je suis bien content de pouvoir vous serrer la pince, de vous connaître et surtout que vous ayez dit oui parce que si moi je vous connais pas, vous me connaissez pas plus puis vous avez quand même accepté facilement de passer le mois avec moi. Parlez-moi un peu de Gail Ouellet. Quel est le lien entre Gail et le RQMO? Comment vous êtes-vous retrouvé là?
Ben oui, c'est une question qui m'est posée souvent.
J'imagine.
Est-ce que j'ai une maladie rare ou mes
enfants?
Vous êtes
peut-être orpheline à la place.
Même pas. Et puis non, c'est pas le cas. Je suis en fait une professionnelle de la santé. Je suis généticienne, mais aussi conseillère en génétique agréée. Puis quand on est conseillère en génétique, on travaille en clinique, ce qui m'a amenée il y a 13-14 ans à rencontrer... des familles, des individus, des couples, même des enfants avec des maladies génétiques. Et les maladies génétiques sont habituellement rares. Et pour les aider, les soutenir, leur donner l'information, c'est notre rôle, les conseillers en génétique. Puis ça m'a amenée à travailler avec des associations de patients de maladies rares génétiques, de m'impliquer de plus en plus, puis finalement d'aider des associations à créer ce regroupement. Moi qui pensais aider, puis faciliter, puis retourner à d'autres choses, finalement, on m'a demandé de rester. Et puis, je m'occupe de ce regroupement.
Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de maladies qui ne sont pas représentées par un organisme, une association qui se préoccupe spécifiquement de ces gens-là versus une maladie qui, elle, est mieux représentée, peut-être?
En fait, on va y aller par exclusion. Là, je dirais qu'il y a à peu près, aujourd'hui, au Québec, une cinquantaine, soixantaine d'organismes qui s'occupent de maladies rares, mais il y a 7000 maladies rares. Donc,
mais est-ce qu'il y a des associations qui vont, disons, se préoccuper de plus d'une maladie parce qu'il y a des ressemblances?
C'est un fait. Là, par exemple, je prends l'exemple de Dystrophie musculaire Canada. Eux, ils s'occupent, ils ont une liste d'à peu près 170 maladies neuromusculaires dont ils s'occupent. Alors, c'est sûr, il y a des associations, c'est comme des catégories de maladies. Mais la plupart, c'est quand même une seule maladie ou quelques-unes seulement. Et puis, c'est sûr que dans les maladies rares, souvent les gens se regroupent à travers le Canada. Fait qu'il peut y avoir une association canadienne ou en tout cas, il y en a beaucoup à l'international, évidemment.
Qu'est-ce qu'on fait pour aider, justement, ces gens qui sont sous-représentés, mais pour qui c'est tellement important?
Nous, au Québec, en tout cas, nous, notre rôle, notre mission, là, c'en est une d'information et de soutien. Alors, on a un centre d'information et de ressources en maladies rares qui est le seul qui existe et qui pallie certainement un besoin dans notre système de santé. Puis, on diffuse beaucoup d'informations sur les maladies rares et les enjeux liés aux maladies rares. Pour ce qui est de la reconnaissance des maladies rares, le Québec et le Canada comme pays est très en retard par rapport à l'international. Nous, on n'a même pas une définition de ce qu'est une maladie rare. Donc, pas de définition, c'est bien dur de reconnaître. Hein? Puis, on n'a pas encore vraiment de politique, de programme.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on pourrait croire que s'il y a définition ailleurs, on a juste à prendre leur définition. Pourquoi c'est nécessaire d'avoir notre définition?
C'est la définition la plus utilisée à l'international qu'on utilise. Puis je pense qu'elle est... on l'utilise, mais c'est pas officiel. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas considéré comme une catégorie de maladies. Par exemple, on va parler en santé publique des maladies infectieuses, on va parler des maladies mentales, on va parler... Mais les maladies rares, alors qu'ils sont reconnus comme une catégorie de maladies dans de nombreux pays, d'ailleurs, il y a de 30 à 40 pays actuellement qui ont soit déjà adopté ce qu'on appelle un plan national maladies rares, ou sont en train de le faire, ben nous, on n'a pas ça. Donc, c'est vrai que c'est pas juste une question de la définition, mais c'est sûr qu'une fois qu'on définit, on reconnaît. Puis de là viennent des programmes et des politiques.
Y a-t-il des maladies qui sont en voie d'être reconnues, qui sont à, disons, passer à travers le processus, ou on dirait que maintenant... C'est presque plus avantageux pour le gouvernement dans cette période d'austérité de dire non à tout nouvel ajout?
Non, c'est pas une question de reconnaître chaque maladie une par une. Les maladies sont là, ils existent, sont reconnues.
C'est pour ça que...
je veux dire, dans le milieu médical, si quelqu'un a une maladie, il devrait avoir les services là, ou la prise en charge. C'est ça qui pose problème des fois. Il devrait avoir un bon diagnostic. Ça pose problème aussi des fois. Fait que c'est pas tellement... et puis, il y a des nouvelles maladies qui sont découvertes toutes les semaines à travers le monde. Donc, c'est pas dans le sens de reconnaître chacune. Par contre, là où on parle de reconnaissance de maladies, c'est au niveau des services, par exemple. Obtenir l'invalidité par la Régie des rentes du Québec, bien, on voit souvent, c'est pas nécessairement par nom de maladie. Alors là, les gens, ils pensent que, ah, ma maladie n'est pas reconnue, ils ne me donnent pas mon statut d'invalidité. C'est pas tellement comme ça que ça marche, là. C'est souvent selon les incapacités puis les invalidités.
Justement, est-ce que dans ces 7000 maladies pour lesquelles le RQMO se soucie, il y a des maladies, disons, handicapantes, puis il y en a d'autres, j'imagine, qui sont uniquement liées à un physique qui va de moins en moins bien. Est-ce que vous travaillez comme sur deux tableaux? Comprenez-vous ce que je veux dire? Bon, je vais prendre un exemple très... Mais bon, une grippe, c'est badrant, mais c'est pas handicapant. Tandis que une surdité, c'est autre chose. Dans vos maladies, j'imagine qu'il y en a qui ne s'attaquent qu'au corps. Exemple, justement, on va parler du vitiligo tantôt. Oui, il y a le handicap social, mais sinon, physiquement, il n'y a rien que la personne ne peut faire, contrairement à quelqu'un qui a un sens en moins. Donc, est-ce que vos représentations se font comme à différents niveaux?
Bien, nous, de notre création, on a voulu être inclusif. Puis de ne pas mesurer... oui, il y a des maladies plus sévères, fatales, neurodégénératives, etc. Mais on a décidé de s'appeler maladie orpheline parce que même certaines, si on peut dire, il y en a qui ne veulent pas que ce soit appelé des maladies, supposons des conditions de la peau ou autre chose, ou autres conditions comme ça... c'est malgré nous, ça peut être... Nous, on considère que ça peut être stigmatisant, il peut y avoir des préjugés, ils sont mal compris, donc pour nous, ils sont orphelines quand même. Donc, on veut être inclusif, c'est dans ce sens-là.
Comment cette réalité-là évolue-t-elle? Est-ce que, c'est une réalité que l'on connaît mieux depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, du moins l'existence de maladies orphelines? Mais est-ce qu'au Québec, on connaît mieux les maladies orphelines ou c'est simplement l'existence de maladies orphelines qu'on connaît peut-être mieux depuis 10-15 ans?
L'existence, là, définitivement, on connaît mieux de l'ensemble l'ensemble des maladies orphelines, mais je dirais pas 10-15 ans, je dirais 3, 4, 5 ans. Okay. Oui, tout à fait. Puis l'autre chose, au Québec, il y a plein de gens qui pensent encore que les maladies orphelines au Québec, c'est seulement les maladies des Canadiens français, des Québécois fréquentes au Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors que c'est pas seulement ça. Ça, c'est un préjugé qui existe. Mais pour ce qui est de les différentes maladies orphelines, ben avec 7000, là, je peux vous dire que même les médecins ils en connaissent très peu. C'est très difficile de les connaître tous, c'est normal. Mais c'est plutôt de reconnaître qu'ils peuvent être devant quelque chose de rare. Puis...
Mais comment a-t-on établi que, bon, OK, nous, on va s'occuper de 7000 maladies? Je veux dire, il y a un jeu du soir, là, vous avez fait un 5 à 7 avec des amis, puis vous dites, OK, on prend celle-là, oui, non, non, oui? Je veux dire, comment vous avez déterminé ça?
OK. Bien, il y a une base de données internationale qui existe, qui s'appelle Orphanet, auquel notre organisme participe pour leur verser nos ressources en maladies rares au Québec. Puis, ils essaient, eux, par leurs moyens scientifiques, d'établir au moins un estimé de prévalence des maladies. Alors, on peut d'abord se fier à cette base de données pour établir qu'une maladie dont la définition, en fait, c'est moins d'une personne sur 2000 dans la population. Puis c'est sûr que on voit une maladie où c'est 1 sur 1500 ou 1 sur 1000, mais qu'elle semble orpheline, là, on s'en fâche pas dans les fleurs du tapis,
ouais,
comme on dit.
Ouais. Est-ce qu'on sent, par contre, au niveau de la recherche à l'international, peut-être une recrudescence de chercheurs qui se penchent sur ces questions-là?
Oui, on a vu ce changement-là dans les dernières années, beaucoup plus d'intérêt pour la recherche, pour le développement de traitement.
Comment ça se produit?
Bien, je vais vous dire, c'est sûr que ça a été initié par les associations de patients. C'est vraiment par un effort de sensibilisation puis de pression. Et puis, donc, beaucoup de pays, surtout en Europe et aux États-Unis, parce que le Canada, on est toujours en retard. Aux États-Unis, ils ont le Office of Rare Disease. Le NIH a plusieurs programmes pour les maladies non diagnostiquées, pour les maladies rares. En Europe, ils ont des réseaux internationaux. En France, ils ont la Fondation Maladies rares qui est dévouée à la recherche. Il y a l'Association de myopathie française, c'est eux-mêmes qui ont été à l'avant-garde de tout ça, puis qui a créé le Téléthon au début décembre.
Mais ce que je remarque, c'est que ce ne sont pas les pharma qui investissent, mais vraiment des individus qui amènent de l'argent en disant « Nous, on vous paye pour que vous cherchiez, parce que si on attend que les pharmaceutiques se penchent sur nos réalités à nous, ça ne bougera pas. »
Bien, ça a bougé à partir de 1983 pour les compagnies pharmaceutiques, quand aux États-Unis, ils ont établi un règlement qu'on appelle le règlement des médicaments orphelins, puis qui donnait des incitatifs aux compagnies pour qu'ils s'y intéressent. Ah. Sinon, ils ne s'y intéressent pas. Alors, depuis ce temps-là, il y a de l'intérêt. Puis, dans les dernières années, les grosses compagnies pharmaceutiques, ils se cherchent d'autres créneaux, puis ils adoptent les maladies rares. Mais quand même, on a quand même juste 250 médicaments là, pour 7000 maladies rares.
Est-ce que le vitiligo fait partie de ces maladies chanceuses, entre guillemets?
Je ne crois pas. Je pense que Mme Paco va nous en parler plus, mais je ne crois pas qu'il y a beaucoup de développement à ce niveau-là.
Bon, on s'arrête et on va inclure Ariel dans la discussion.